Ici à l'UDS, c'est le balado qui va te donner toutes les clés pour une arrivée réussie à l'université et au Québec. On parle de tous les sujets lorsqu'on immigre et on te donne les ressources pour répondre à tes questions. Tu écoutes un nouvel épisode d'Ici à l'UDS. Fait que bonjour, merci beaucoup Françoise Blaise d'être avec nous aujourd'hui. Tu es enseignante à la maîtrise en médiation interculturelle et en management de la diversité ici à l'Université de Sherbrooke. Tu as été toi-même internationale finalement parce que tu viens de France également. Puis aujourd'hui tu viens nous parler un petit peu des différences auxquelles on peut s'attendre, puis les choses auxquelles il faut se préparer aussi quand on vient étudier à l'Université de Sherbrooke et au Canada, plus particulièrement au Québec. Parce qu'il y a des différences entre l'enseignement, entre ce qu'on va voir, comment on va parler, etc. Donc tu viens un peu nous donner des outils puis nous dire quelle est la plus grosse différence entre les deux types d'enseignement selon le pays d'où on vient et le Canada.
Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. C'est un sujet qui me passionne. Puis là, tu as mentionné ma tâche, mes fonctions d'enseignement. Mais je travaille surtout en recherche et développement à U Sherbrooke International, recherche et développement en interculturel et internationalisation. Puis justement, l'axe plus particulier, c'est le développement des compétences interculturelles pour les étudiants, mais aussi pour l'ensemble de la communauté universitaire, parce qu'on est vraiment au Québec dans un paradigme de l'interculturel, versus du multiculturel au Canada. Le multiculturalisme, ça fait partie de la Constitution canadienne. C'est donc une société mosaïque où plein de cultures cohabitent. Ouais. Mais l'interculturel au Québec, c'est une couche de plus.
Oui.
C'est-à-dire que l'idée, c'est que y a une adaptation des deux côtés. C'est-à-dire, c'est une approche de co-responsabilité entre les nouveaux arrivants qui doivent s'ajuster, mais aussi le milieu. Pour un véritable vivre ensemble, il faut que le milieu, la société hôte, comprenne bien quels sont les besoins, là, en l'occurrence, des étudiants leurs besoins, puis puissent expliciter quelles sont les attentes et comment, à partir de là, on peut vivre ensemble, puis réussir ensemble. Puis, dans mon mandat à U Sherbrooke International, c'est là-dessus vraiment que je travaille plus particulièrement.
Oui, donc il y a un vrai effort, entre guillemets, à faire, autant des étudiants, des futurs étudiants internationaux qui vont arriver, mais aussi des membres du personnel, du corps professoral, etc. Donc, on peut s'attendre à être accompagné aussi, finalement, quand on arrive ici.
Je pense que c'est un des éléments clés de différence entre le système français, belge, suisse, je parle pour les francophones, mais les systèmes européens, puis les systèmes hérités aussi du système français, comme sur le continent africain, au Maghreb et puis en Afrique de l'Ouest, où là c'est sur des rails, et puis il y a plus de distance entre les professeurs et les étudiants. Ici on va en parler, je pense, un petit peu plus, mais au contraire, on peut être très accompagné. Il y a beaucoup d'outils et de ressources qui sont déployés pour la réussite des étudiants, à une condition, c'est qu'on aille chercher, c'est que les étudiants aillent chercher ces ressources, parce qu'une des valeurs clés ici, c'est l'autonomie.
Ouais.
Donc, on va en reparler. C'est un des éléments clés. Si on va chercher les ressources, on va vraiment être accompagné. Mais ces outils, ils sont là, on va vous donner la main pour aller les chercher, mais il faut soi-même se prendre en charge, parce qu'on est responsable de son parcours et de sa réussite. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'outils, mais il faut soi-même faire les démarches. Il ne faut pas attendre trop tard non plus, parce que troisième thème que je pense qu'on va aborder, c'est le rythme des études. Ça part tout de suite, ce n'est pas des examens finaux.
Ouais. C'est une grosse différence.
C'est une énorme différence, et il faut le savoir, parce que si on loupe le TGV, il repassera pas tout de suite.
Non, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que si on pouvait nommer quelques-unes des grosses différences qu'il y a entre les systèmes donc européens ou hérités des systèmes européens et le système québécois, finalement.
Je dirais justement, là, les trois points que j'ai mentionné, peut-être à développer. Le système d'éducation au Québec, c'est le reflet des... Il fait partie, participe, et il est le reflet des valeurs de la société en général. Donc, la valeur première, comme je disais, c'est l'autonomie.
Ouais.
On s'attend à ce que les étudiants soient autonomes. Encore une fois, on va leur donner beaucoup d'éléments, mais on s'attend à ce qu'ils prennent en charge leur parcours par rapport à la réussite. Ouais. On ne vient pas chauffer les bancs
de la salle. C'est ça,
ouais. On est là pour on participe. On est dans des groupes, ça c'est une des différences aussi, on est dans des groupes de travail, dans des équipes. Ouais. Et là aussi, on n'est pas là pour discuter. Il faut jouer son rôle. Il y a des attentes par rapport à ça. Donc, les valeurs d'autonomie, de performance individuelle, elles sont très importantes. Puis, elles se traduisent de différentes façons. La première, c'est qu'effectivement, comme je disais, puis comme tu le soulevais aussi, on va donner beaucoup d'outils de soutien, d'accompagnement. L'information, elle est très clairement mentionnée.
Ouais,
les plans de cours, sur le plan de cours, il y a tout.
C'est vrai que c'est une grosse différence avec les systèmes européens. Il n'y a pas énormément de plans de cours en Europe.
Fait.
Puis là, on nous dit tout, toutes les dates, les lectures, ce qu'on va mentionner dans chaque cours. Puis c'est vraiment un accompagnement en plus.
Exactement. Donc, tout est là. Qu'est-ce qui va être abordé dans chacun des cours? À quel moment sont les évaluations? Encore une fois, il y a des évaluations de façon régulière. Mm-hmm. L'aspect, on va y revenir aussi peut-être parce que c'est un point je trouve important, il y a à la fin l'intégrité intellectuelle, la façon dont on doit se comporter aussi. Tous ces éléments-là sont noirs sur blanc, sur papier. Donc, on ne peut pas dire après « Ah, je ne le savais pas ». Et ça, par rapport à l'autonomie et à la responsabilité, c'est très important. Donc, on dit parfois, puis j'y reviendrai, mais c'est la différence entre des sociétés pêche et des sociétés noix de coco. La société pêche, c'est ici, tout est doux. On va, il n'y a pas de conflit. Tout le monde va être aimable. Le prof, on va aller le voir. Il va te tutoyer. Tout se passe très bien, mais il n'y a pas de mais, en fait. Et ça veut dire aussi que l'information, elle est donnée. Tout est transparent. La sphère publique, tout est transparent. Mais le noyau dur, c'est plus difficile à percer. Ça, on va le dire, peut-être, on va y revenir au niveau des rapports sociaux.
Entre les personnes,
les personnes, comment on crée des liens. Ce n'est pas forcément de la même façon. Mais donc, ça veut dire qu'encore une fois, toute l'information, elle est là sur le plan de cours, sur les sites. Sur le site de l'université, vraiment, tout est là. Donc, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est censé ignorer la façon dont ça fonctionne.
Ouais.
Ça veut dire que, par exemple, si tu sais que tu ne vas pas pouvoir être là pour une évaluation, ben, il faut que tu ailles voir le prof tout de suite.
C'est ça, c'est ta responsabilité
à toi.
Exact.
Parce que si tu vas le voir à la fin en disant « Ah, ben, je n'ai pas pu être là pour ceci, cela », écoute,
ça fonctionnera pas.
Voilà, c'était, tu le savais. Il fallait te prendre en charge. Ça va être perçu comme une question de maturité et de non-responsabilité ou de non-maturité. Par rapport à ça aussi, donc, on disait le prof, il est plus accessible.
Oui, vraiment.
Et alors, on dit, ici, il n'y a pas de distance hiérarchique. Le prof, tu peux aller le voir. Puis, moi, j'irai plus loin. C'est pas que tu peux aller le voir, c'est que tu dois.
Ouais.
Aller le voir, là aussi.
Ils s'attendent à ce qu'on aille à ce qu'on a posé des questions. Mais une chose qui est plus simple aussi, c'est que les groupes sont souvent plus petits.
Tout à fait.
Dans des facultés, ça va jusqu'à 150 gros max, alors que dans des pays européens où c'est vraiment beaucoup plus de personnes, là, ça peut être jusqu'à 1000 personnes dans un amphithéâtre.
Donc le prof, en général, il va te connaître.
Oui.
Il va te tutoyer, il va connaître ton prénom. Il y a beaucoup d'interactions. On s'attend à ce que tu interagisses pendant le cours et pas à ce que tu bavardes à côté. Il y a des enseignants qui avaient il y a eu des cohortes de français là, puis ils disaient, mais enfin, jamais j'ai eu affaire de discipline. On n'est plus à un niveau à l'université où on a affaire de discipline ou à dire, enfin, si vous êtes là, c'est que vous voulez.
Il y a cet aspect de maturité, comme tu mentionnais tout à l'heure, en fait, qui est très importante aussi avec l'autonomie. Ouais,
parce qu'on dit, ici, tu payes. Les études, alors beaucoup moins que dans le reste de l'Amérique du Nord, du moins, alors c'est pas pour les étudiants internationaux, c'est
quand même
chose.
Cher,
les
mais...
Français c'est beaucoup plus facile,
oui.
Mais on paye, et donc l'idée c'est, si tu es là, le temps c'est de l'argent, on va revenir à la gestion du temps aussi, le temps c'est de l'argent, donc si tu es là, prends le maximum, make the most of it, je suis là pour toi. On est dans des moments d'interaction. Il y a beaucoup de pédagogie inversée aussi, où le cours, la matière, tu vas la regarder chez toi. C'est ta responsabilité. Puis là, on va profiter du moment où on est ensemble en cours pour aller un peu plus, de façon un peu plus approfondie, pour être dans l'application de la matière, dans des discussions. Et ce n'est pas des discussions discutées pour discuter. Ce n'est pas palabrer. C'est vraiment ces discussions-là, ça va être ce qui va te permettre d'assimiler la matière.
Ouais.
Donc, faut être là en cours. Oui. C'est important. C'est pas, tu vas pas retrouver, oui, tu vas avoir les supports de cours, mais c'est important que tu l'assimiles au fur et à mesure la matière, parce qu'encore une fois, ça part tout de suite.
Oui.
La première semaine, la deuxième semaine, tu vas rapidement avoir des travaux d'équipe. Mm-hmm. Donc, tu peux pas t'amuser à attendre, à te dire, oh, je rattraperai plus tard, je rattraperai plus tard.
Non, c'est pas possible.
Ce qui se passe en classe, c'est au moins aussi important que ce que tu as sur les plans de cours. Et des étudiants, ils arrivent, ils se disent, ah ben, j'ai pris en note ce qu'il y avait au tableau, puis je vais relire mes cours. Puis si j'arrive avec ça, ça va marcher à l'examen.
Mmh, mais non.
Et en fait, non.
Parce que c'est beaucoup plus poussé en examen, justement. C'est toutes les petites choses qui peuvent parfois nous paraître un peu moins utiles, disons, dans les discussions, dans les commentaires, etc., qui sont les choses sur lesquelles on va te questionner.
En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu peux l'appliquer, la matière ?
Ouais,
c'est
ça.
Est-ce que tu l'as intégré.
Ouais.
Donc, comment tu l'as internalisé ? Comment tu peux l'appliquer ? Donc, on ne te demande pas de recracher ce qu'il y a déjà dans les livres, on va vraiment te demander d'analyser.
Ouais, une réflexion plus poussée.
Ouais. Une réflexion plus poussée. Donc ça surprend les étudiants internationaux souvent.
Mais oui.
Ils arrivent à l'examen, ils ont bien bossé, ils ont appris, mais ce n'est pas ça qu'on va leur demander.
Non, c'est ça, c'est une méthode de travail aussi. C'est un autre point, je pense, d'une grosse différence, une méthode de travail qui est différente. Puis il y a une chose aussi qui peut être un petit peu... qui nous... Ouais, c'est ça, de nous mettre dans des conditions différentes, c'est qu'il y a moins d'heures de cours,
tout
puis
à
qu'on
fait.
A une seule fois le cours par semaine. C'est quand même important de le mentionner. En général, on a 5 cours, 3 heures. En général, ça dépend des programmes, évidemment. Mais majoritairement, c'est ça. Puis ça fait que 15 heures de cours. Puis on se dit... Oh, 15 heures de cours, c'est rien. Mais c'est ça, il y a tout un aspect différent de la gestion du temps après, où on revient à, ok, j'ai 15 heures de cours, mais qu'est-ce que je fais de mon reste du temps ? Comment je vais appliquer en fait ce que j'ai appris en cours, etc. Comment je vais gérer mon temps ? Est-ce qu'il y a des particularités avec ça ?
C'est clair. Puis avant de passer à la gestion du temps, parce que c'est hyper important, mais ça m'a fait penser à une chose, c'est que pour les examens, par exemple, il y a beaucoup d'examens dans lesquels tu vas avoir droit à tes notes.
Oui, beaucoup.
C'est vrai. Même à tes livres. Mmh. Donc, tu peux aller chercher des livres à la bibliothèque, tu vas avoir, ça va être à livre ouvert. Donc, et tes notes, d'ailleurs, le fait d'avoir une feuille de notes, moi je dis toujours aux étudiants, ben oui, je suis tout à fait. Faites-la votre feuille de notes parce qu'en la faisant, vous apprenez.
Oui, 100%.
Donc, voilà. Et donc, c'est encore une fois, parfois les étudiants arrivent puis ils se disent, ah, j'ai appris. Puis en fait, ce n'est pas ce qui leur est demandé. Ce qui est demandé, c'est l'analyse de la matière. Alors, ça veut dire qu'il faut quand même la connaître pour ne pas être dans ses notes à chercher.
Évidemment.
Ou dans les livres. Mais encore une fois, ce qu'on va demander, c'est l'analyse, l'application, l'appropriation des connaissances et des apprentissages.
Mais justement, c'est aussi l'autonomie du fait de se dire « Ah, ben, je suis à livre ouvert, mais il faut quand même que j'apprenne. Il ne faut pas juste que je me repose en disant « Il y a la matière dans le livre. »
Tout à fait.
Ouais, encore une fois.
Tout à fait, tout à fait. Puis, juste un truc aussi par rapport au prof, on disait « Il va te tutoyer.
Ouais.
Il te connaît.
Oui.
C'est sympathique. Il y a beaucoup d'interactions, etc. » Et on s'attend à cette interaction. Mmh. Tu vas le voir si tu as quelques questions que ce soit, parce qu'après, ça sera trop tard. Mais on dit qu'il n'y a pas de distance hiérarchique. C'est pas tout à fait vrai. La distance prof-étudiant, elle existe.
Oui.
C'est juste qu'elle ne se traduit pas de la même façon. Donc, on va te tutoyer, tu vas le tutoyer, ça va être très fluide.
Ouais.
Mais c'est pas pour ça qu'il va t'accorder un délai supplémentaire, parce que ça créerait de l'inéquité par rapport aux autres.
Mmh.
Et ici, c'est assez by the book.
Oui.
On est moins dans le relationnel et dans « Ah, on va trouver un moyen de moyenner ». On applique les règlements pour plus d'efficacité. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que tu tutoies le prof, puis parce que tu vas manger, tu le vois un 5 à 7, que tu es pote avec lui.
Il faut savoir faire la différence.
Exactement.
En fait. Exactement. Puis eux savent le faire. Puis ça peut faire bizarre au début, honnêtement, parce qu'on se dit, oh, mais on peut aller boire un verre ensemble après le cours, mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir
tout
des faveurs, comme tu le mentionnais. Puis ouais, c'est ça. Il y avait la gestion du temps aussi qui était une grosse différence qu'il faut prendre en compte.
Puis quand on disait aussi aller chercher les outils, être responsable de sa réussite. Il y a beaucoup, comme tu disais, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'outils. À l'université de Sherbrooke, on dit que c'est une université, une grande université à taille humaine. Puis c'est vrai au Québec en général, mais à l'université de Sherbrooke particulièrement.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de ressources. Il y a des conseillers pédagogiques, il y a des coordonnateurs académiques, il y a des gens qui sont vraiment dont les postes sont dédiés aux étudiants.
Ouais, très encadré.
C'est très encadré, mais encore une fois, il faut aller les voir, puis pas aller les voir pour jaser.
Ouais.
Parce que par rapport à la gestion du temps, ils ont une gestion du temps, ça va être, ben, je viens avec une demande particulière. Donc il faut analyser ses besoins, C'est pas parce que tu vas, oui, ça va être une personne ressource, mais encore une fois, c'est pas tant dans ah, je suis cool, je vais montrer que j'ai une bonne personnalité, mm-hmm. puis on a un bon lien. Oui, c'est important d'avoir un bon lien, mais il faut y aller avec voilà la problématique que j'ai ou voilà par rapport à quoi je me sens pas bien. Puis il y a beaucoup de, donc encore une fois, il y a des personnes dédiées à ça dans les programmes. C'est bien important, je pense aux conseillers pédagogiques par exemple, par rapport à la gestion du temps. Ouais. Il y a des dates limites d'abandon. Par rapport au cours, pour ne pas payer le cours ou pour ne pas avoir de traces négatives sur son relevé de notes.
Oui.
Donc, c'est OK d'abandonner un cours il y a quelques semaines.
Oui, c'est un peu moins d'un mois, il me semble, quelque chose comme ça.
Ça dépend des programmes, mais c'est le nombre d'heures de cours, etc. Oui. Et c'est important de le savoir avant.
Oui.
Parce que sinon, tu as une trace sur ton relevé de notes, ça peut impacter ta moyenne mm-hmm. et donc après la poursuite de tes études en maîtrise ou tes stages, etc. Ouais. etc. Donc, ça, c'est à partir de la gestion du temps aussi. Il faut aller voir les gens rapidement. Si tu sens qu'il y a un cours dans lequel ça ne va pas marcher ou je n'ai pas vraiment le temps, ou, etc., ouais. peut-être qu'il vaut mieux l'abandonner dans les temps
oui.
pour pouvoir prendre autre chose ou prendre autre chose après. Parce qu'encore une fois, tu gères ton parcours universitaire, tu ouais. gères ta réussite. Puis il faut voir, est-ce que si je l'abandonne, est-ce que je peux le reprendre mm-hmm. plus tard ? Parce que tous les cours ne sont pas donnés tous les trimestres.
Oui, c'est ça aussi.
Il y a des cours obligatoires, il y a des, etc. Donc ouais. il y a des gens qui sont vraiment dédiés à ça. Il ne faut pas hésiter à aller les voir.
Il ne faut pas avoir honte. Parfois, on a peur un peu de poser des questions bêtes, mais il n'y a pas de questions bêtes. Ils ont la réponse souvent aux questions. Puis s'ils ne les ont pas, ils nous réfèrent encore vers d'autres personnes. Mais parfois, on est un peu plus frileux dans les pays européens, etc., d'aller voir les gens. Mais là, les gens sont là pour ça.
Ils
comme tu dis,
ils sont
à temps plein pour faire ça, pour nous répondre et pour nous accompagner dans ça. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est notre réussite.
Exactement.
Fait qu'on va avoir vraiment un
accompagnement. On est partenaire dans la réussite. Là-dedans.
Oui, exactement.
Puis il y a ces personnes dans les programmes, puis il y a aussi des personnes dans les services,
oui.
services à la vie étudiante, services de psychologie et d'orientation.
Ouais.
Il y a des ateliers d'adaptation qui sont là pour ça, auxquels on peut s'inscrire.
Qui sont vraiment bons.
Bon,
moi, je l'ai fait, puis c'est vraiment une chance parce qu'on discute avec justement des psychologues, on discute aussi avec des Québécois et Québécoises, puis avec d'autres étudiants internationaux. Fait qu'on peut confronter nos différences parce que selon les programmes, par exemple, moi, je suis en communication, mais quelqu'un en génie ou en administration ou en sciences ne va pas avoir la même expérience que moi.
Tout à fait.
Parce que ça dépend des programmes et que c'est au cas par cas.
Et c'est dans les discussions que tu vas t'apercevoir que les cadres de référence ne sont pas les mêmes.
Oui, exactement.
Parce que sinon, tu parles la même langue. Encore plus pour les Français.
Mm-hmm.
Pour les francophones du continent africain, par exemple, ils s'attendent à un petit peu plus de distance culturelle. Mais
c'est
pour
vrai.
Les Français, ils ont l'impression que c'est un autre département d'outre-mer, à la limite.
Oui, c'est ça. C'est une autre France, mais un peu plus loin.
Voilà, c'est
mais
la
c'est
nouvelle
une autre
France.
Différence et une chose à laquelle il faut aussi s'adapter, je pense. Ben, arrête-moi si je me trompe là. Mais l'accent, puis la façon de parler aussi, ça peut être quelque chose de
c'est
vraiment différent.
C'est déstabilisant, parce que, en fait, surtout pour, encore plus pour les Français, on parle la même langue. Donc on se dit en fait on est pareil, mais en fait on compare souvent la culture à un iceberg, c'est-à-dire au-dessus de l'iceberg, la partie émergée, c'est tout ce qui est visible de la culture.
Bah oui.
Donc la langue, la bouffe, comment on s'habille, comment on interagit avec les gens, les monuments, etc. Puis on se dit bon, mais ça c'est très proche. Mais en fait en dessous, ce qui permet à l'iceberg de flotter, ce qui le soutient, c'est les valeurs.
Ouais.
Puis ces valeurs, elles sont extrêmement différentes. On parle la même langue, donc on interprète les choses selon notre propre cadre de référence, mais en fait, non. Mmh. Les valeurs, quand on parle d'autonomie, d'individualisme, de gestion du temps, c'est pas du tout la même chose. Donc, pour les Français, je pense que c'est encore plus flagrant.
Ouais.
Parce que quand je parle de pêche noix de coco, par exemple, ils se disent, bon, ben là, tout le monde est gentil, etc. Mais finalement, au bout de quelques mois, je m'aperçois que, j'ai pas été invitée en fait à manger chez les gens, où on n'a pas créé d'amitié. Finalement, tout va bien en cours, on interagit, puis c'est fluide, ça fonctionne. Mais j'ai pas l'impression que j'ai créé.
Pas aller plus loin.
C'est pas aller plus loin. Mettons, je recroise la personne dans le bus, elle va me dire bonjour, mais sans plus.
Ouais.
Et ça, c'est un choc au bout de quelques temps. Au début, ça c'est l'adaptation culturelle. Hein. On le sait, on arrive avec des lunettes roses.
C'est comme
le début d'une histoire d'amour.
Tout est beau. Après, au fur et à mesure. Mais c'est normal aussi.
Tout à fait.
Il faut le dire aux gens qui écoutent, là, c'est vraiment normal d'avoir une phase
c'est
un peu.
C'est exactement ça. c'est qui évolue. C'est normal. Au début, on arrive avec ses lunettes roses. Quand on l'a choisi de venir, c'est « Ah ben voilà, je vais me déployer dans tout ce que je n'avais pas chez moi. » Puis là, ici, justement, on peut déployer avec toutes ses qualités, etc. On est beaucoup moins sur des rails, il n'y a pas de distance hiérarchique, les gens sont super sympas, etc., etc. Oui, et c'est différent. Et en fait, tu vas voir que sous cet aspect-là, les valeurs sont différentes. Donc, si tu veux socialiser avec les gens, ben, il va falloir souvent que ça passe par... On parlait de la tâche versus la relation, ben, ça va passer par des activités. Je vais m'inscrire à des trucs pour avoir des activités. C'est quoi mes hobbies ou c'est quoi que j'ai envie d'apprendre? Là, tu vas rencontrer des gens. Mmh. T'as beau avoir une personnalité super cool, c'est peut-être pas par rapport à ça que tu vas socialiser, puis que tu vas être choisi. Parce que là, si on revient à la classe et au groupe de travail, parce qu'encore une fois, c'est très important.
Ici, c'est extrêmement développé, les groupes de travail.
C'est très développé, ça fait partie, tu as peut-être jusqu'à 40% de ta note.
Ah oui, facilement.
Qui va être dans des groupes de travail. Mm-hmm. Donc, tu as intérêt à ce que ça fonctionne. Puis au départ, parfois, en tant qu'étudiant international, tu ne vas pas être choisi pour...
Non.
Et ça, c'est dans tous les pays. Hein. Mais encore plus peut-être ici, par rapport à ce qu'on disait de la performance, l'individualisme et puis l'autonomie. Ici, on cherche à avoir, dans les groupes, et chaque étudiant est responsable de sa réussite, il va chercher à avoir la meilleure note possible.
Oui.
Comment tu as la meilleure note possible? C'est avec les gens qui sont les plus performants. Toi, tu arrives d'ailleurs, tu es performant puisque tu as pu intégrer l'université de Sherbrooke ici, c'est que tu es bon. Ouais. Cela dit, tu ne sais pas quelles sont les attentes, tu ne sais pas exactement comment t'es noté, tu ne sais pas les valeurs. Surtout si c'est la même langue que toi, tu as l'impression que c'est pareil, mais tu vas t'apercevoir assez rapidement que probablement que les premières notes, ça ne va pas être exactement ce à quoi tu t'attendais.
Ouais. Surtout qu'il y a l'aspect de pourcentage aussi des notes qui changent,
tout à fait.
Qui est quelque chose de vraiment différent, les lettres, etc. On a des références au niveau des notes aussi qui sont différentes quand c'est noté sur 20 en Europe, etc. Ben, on a 14, ça fonctionne bien, mais ici, ça fait 70-75, c'est pas bon. Fait que c'est des choses qui sont à s'adapter aussi, je pense que c'est une des grosses différences.
C'est une des grosses différences, puis ça dépend, et puis ça va être très important aussi pour la note de passage. La note, la réussite, c'est 60%, mais si t'as 60%, c'est pas bon.
Non, c'est ça.
Et si tu veux continuer par la suite,
faut
beaucoup plus. Puis ça, c'est bien important d'aller se renseigner aussi au niveau du programme, comment c'est géré, les notes, non seulement les notes de passage, mais les écarts-types, etc. C'est vraiment, vraiment important. Puis, quand on parlait des groupes de travail, au départ, peut-être qu'en tant qu'étudiant international, tu ne vas pas forcément être choisi pour faire partie du groupe. Pas parce qu'il y a du racisme, simplement parce que tu ne connais pas les codes. Donc, tu as moins de chances d'avoir les meilleures notes parce que tu ne sais pas exactement comment
à quoi les profs s'attendent. Voilà. Parce qu'il y a dans les bibliographies, notamment, il y a beaucoup d'attentes en APA. On n'a jamais entendu
tout
parler de ça. Fait que je pense que c'est aussi une des choses importantes à mentionner, que faut pas hésiter à aller voir le prof, à dire « moi, je viens d'un autre pays », même si on est en échange que quelques mois, peu importe, d'aller voir le prof ou la prof et de dire « moi, ce n'est pas mes codes ». Qu'est-ce que je dois faire? Même la citation de source, c'est une des choses pour lesquelles on perd beaucoup de points. La façon de parler, les mots qu'on utilise, etc. Quand il y a beaucoup de rédaction, parfois, ça peut nous faire perdre beaucoup de points.
La façon dont on présente, là tu parles du référencement, c'est un point hyper important. Puis la façon dont on présente, ça dépend évidemment selon les matières.
Ouais.
Mais en Europe, dans les pays du continent africain, on a tendance à donner beaucoup de contexte.
Oui.
Et donc les introductions sont longues, on veut amener le sujet, on a appris à amener le sujet d'une certaine façon, à faire des dissertations, des commentaires de texte, etc. Ici, pas du tout.
Ouais, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Donc ça dépend des disciplines, puis il faut aller modéliser selon les textes, selon les
autres références qu'on peut avoir.
Voilà.
Ouais.
Mais en général, c'est beaucoup plus pragmatique.
C'est vrai.
Dès ton introduction, tu dois aller right to the point, annoncer ce que tu vas dire, et après, tu vas tac, tac.
C'est moins le nombre de pages qui est regardé, peut-être, et plus la pertinence de ce que tu vas dire dans ton... Tu peux même écrire deux pages... Tant que c'est pertinent, ça va fonctionner. Puis ça, c'est vraiment à voir avec les professeurs, puis avec la faculté aussi.
Et en général, tu as même un nombre de mots
ou de souvent.
Pages. Donc, ce n'est pas parce que tu en fais plus que ça va être mieux. À la limite, au contraire.
Ouais.
On va plus valoriser le fait que ce soit en peu de mots, mais je disais right to the point. Donc, le fait d'en faire plus ne va pas être valorisé en termes de tartiner.
Ouais.
Ou même si c'est intéressant, mais si on dépasse le sujet, ça ne va pas forcément être particulièrement valorisé. Donc, effectivement, aller se renseigner, puis essayer d'aller chercher, ben, c'est quoi les modèles de rédaction. Oui. Il y a souvent, d'ailleurs, dans les facultés, il y a des guides de rédaction.
Oui.
Facultaire.
Oui.
Donc, aller s'y référer, voir les personnes qui sont dans les programmes qui vont pouvoir aider par rapport à ça. Puis aussi, tout à l'heure, on disait par rapport aux personnes qui peuvent aider, il y a les personnes qui ont les titres en lien avec ça. Mais à l'Université de Sherbrooke, on a aussi beaucoup de réseaux de personnes,
oui,
qui peuvent aider, les aides à la vie étudiante, qu'on peut aller voir dans chaque faculté, mm-hmm, dans les services aussi, pour aller se confier sur quelque chose qui nous préoccupe. Il y a les personnes alliées de l'interculturel, c'est un réseau que, justement, dont je m'occupe avec ma collègue Bénédicte Terrien à U Sherbrooke International, mm-hmm, qui sont à la fois, il y a des professionnels, il y a des cadres, il y a des profs, il y a des gens du personnel de soutien qui ont été formés par rapport aux aspects interculturel.
Ouais.
Quels sont les besoins, puis à quoi on devrait être sensible. Donc, il y a des logos sur les portes ou dans les signatures de ces personnes-là, vous pouvez, mmh, aller les voir. Et puis, troisième type de personne qui est hyper importante aussi, c'est les autres étudiants.
Oui.
Et là aussi, il y a des réseaux. C'est vraiment des traducteurs culturels très importants par rapport aux éléments à la fois sociaux, académiques.
Ouais.
Eux, ils vont pouvoir te transmettre l'information d'une autre façon, parce qu'ils l'ont déjà vécu. Puis donc, tu peux te référer à eux pour des questions que tu n'oserais pas poser à des membres du personnel.
Mmh.
Mais ça va être vraiment important. Dans chaque faculté, il y a des guides facultaires. Dans plusieurs facultés, il y a aussi des programmes de mentorat. Et ces personnes-là, elles sont extrêmement précieuses parce qu'encore une fois, elles vont pouvoir te traduire, elles ont vécu ça.
Mmh, c'est donc vraiment une autre approche.
C'est une autre approche. Puis absolument, il faut y aller, les voir rapidement encore une fois parce que, comme on disait, le train part très vite.
Oui.
Donc, si tu te laisses avoir, puis au niveau psychologique, parfois on ne s'en rend pas compte. Encore une fois, on arrive avec les lunettes roses, on laisse passer du temps et mine de rien, c'est des expériences quand même qui sont transformatrices, mais qui ne sont pas faciles. Au début, il y a énormément de choses auxquelles s'adapter. C'est comme une surcharge cognitive.
Oui, on en parlait tout à l'heure, rien que des courriels qu'on reçoit, oui, énormément, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont perturbantes.
Tu parlais aussi de l'accent. Alors, on parlait des codes, on ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais, l'accent, on disait, même pour les francophones,
c'est bizarre au début.
On arrive et puis, en fait, il y a comme un temps incompressible. Où il faut s'y faire. Alors, comment on peut aider par... Puis ça surprend, parce qu'on se dit, on parle la même langue. Mais en fait, le Québécois, il est beaucoup... La prosodie, c'est-à-dire le rythme et l'accentuation. En français, en France, on accentue en général sur la pénultième syllabe. Ici, il y a un rythme dans la phrase qui est plus teinté d'anglais.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Les mots sont les mêmes. Alors, il y a des mots différents, il y a des structures, des expressions différentes. Mais souvent, la première chose qui surprend, c'est on te parle la même langue. Mais en fait, il y a des trucs que tu ne perçois pas. C'est comme un ruban, comme ça.
Oui, tu ne comprends pas forcément la phrase, etc. Ouais.
Parce que les coupures, l'accentuation de la phrase n'est pas la même.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ben, si on peut se préparer.
Oui, écouter du Québécois avant. Peut paraître bête, là, mais c'est important. Mais
Puis, de toute façon, c'est intéressant. T'écoutes de la musique québécoise, t'écoutes des films québécois, ça va te renseigner aussi un peu sur c'est quoi les valeurs, comment on parle, comment on interagit. C'est de l'exposition à la langue. Parce qu'on dit, comment ça se fait que... Puis il y a des préjugés qui vont avec ça. On dit, vous, les Français, vous ne nous comprenez pas. Alors que nous, les Québécois, on vous comprend. Vous avez vraiment l'impression d'être supérieur? Non, c'est pas ça. C'est que, évidemment, comme il y a jusqu'à présent eu beaucoup de films, de diffusion de trucs en français, si on regarde TV5, ça change un peu, mais c'est beaucoup du français international.
Ouais.
Eh ben, il y a beaucoup plus d'exposition la langue français international.
Mm-hmm.
Et donc, c'est sûr que plus on a d'exposition, plus on a l'impression que c'est normal.
C'est ça, on devient habitué finalement.
Tout à fait.
Mais on s'habitue à force à l'accent québécois aussi.
Mais c'est un choc parce que beaucoup d'étudiants disent, mais quand j'arrive, le prof, il y a les deux tiers du cours, j'ai pas compris. Puis là, c'est l'affolement. Et encore, quand on est francophone, qu'on vient de pays francophones d'Europe ou d'Afrique, c'est la même langue.
Mais
imagine pour les étudiants internationaux dont le français n'est pas la langue première.
Non,
ils ont appris souvent à l'Alliance française ou à travers des cours en ligne le français international.
Ouais.
Ils arrivent ici. Puis là, c'est encore plus difficile.
Mais il y a des cours de français aussi qui sont donnés à l'université. Il y a plein de ressources en fait à l'université qu'on peut utiliser. Fait que ce serait vraiment ça la chose à garder de ce petit épisode qu'on vient de faire là. C'est vraiment aller voir les gens. Est-ce que c'est comme le conseil que tu donnerais vraiment d'aller voir les ressources? Ou tu en as plusieurs, peut-être des conseils pour vraiment s'adapter, puis
je pense
réussir.
Vraiment se dire que ça va être une expérience transformatrice.
Ouais.
Donc, c'est pas... Faut se préparer. Ça va pas se faire. Ça se fait pas tout seul et c'est pas par pensée magique que tu vas réussir. Donc se préparer, se renseigner. Il y a des webinaires qui sont donnés avant par Usherbook International et parfois par les facultés. Il y a des mentorats qui sont même initiés parfois avant l'arrivée. Le fait de s'exposer à la langue, à la culture, d'aller regarder un petit peu tout ça, c'est important. Puis une fois qu'on est là, se dire que ben oui, on va être bousculé.
Ouais.
Puis ça, justement, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport aux ressources, faut pas attendre non plus de tomber dans un moment où on va être en choc culturel. Un choc culturel, c'est pas mauvais. C'est comme quand on fait de la gym, là, on bouscule un peu le muscle pour le faire grossir, on s'entraîne. Mais si on tombe dans un moment où on voit que on devient un peu submergé, puis on se dit, on va rattraper plus tard, comme on disait tout à l'heure. Non, parce qu'ici, le rythme est vraiment soutenu et ça part tout de suite. Puis si on voit que tout d'un coup, on dort vraiment moins bien. On mange beaucoup ou on mange beaucoup moins bien. Ou alors, on va pas dormir ou on va dormir beaucoup trop. On perd de la confiance en soi, on retrouve plus ses mots, on est un petit peu confus. On travaille beaucoup, mais...
Pas efficacement, pas peut-être. Quand il y a une grosse différence avec ce qu'on est normalement.
Exactement. Pas attendre d'être dans un moment où là, on n'y arrive plus, puis on est dans une spirale voilà, où on peut plus faire ses apprentissages. Il y a des personnes au service à la vie étudiante, au SPO, et les personnes qu'on a mentionnées à la fois au niveau des étudiants, des guides, des mentors, les AVE, les alliés de l'interculturel. Allez voir les personnes, les conseillers pédagogiques, etc. Parce qu'ils vont vous référer. Puis, il faut le prendre assez tôt pour pas tomber dans une spirale. Donc, prendre soin de soi, c'est important. Mais se dire qu'effectivement, ça va être une expérience riche, transformatrice, qui va nous bousculer, puis qui va faire en sorte qu'on va devenir un peu hybride. L'important aussi, c'est de se dire, oui, je veux appartenir à ma nouvelle société, mais je peux avoir des pauses culturelles aussi. Donc, des gens de ma communauté...
Bien sûr. On s'en rapproche automatiquement, de toute façon.
On s'en rapproche automatiquement. On ne va pas rester en repli culturel.
Non.
On va quand même par, comme on disait, des activités, tout ça, aller vers la société québécoise et puis les autres étudiants. Encore une fois, souvent par des activités. Ça ne se fait peut-être pas comme ça. Pour être à la fois dans l'appartenance à ma nouvelle société, mais garder qui je suis, puis me transformer de façon enrichissante, harmonieuse. Puis, c'est comme des petits risques initiatiques. C'est comme si on faisait du développement personnel et professionnel accéléré.
Exactement, finalement. C'est ça. Mais vraiment, merci beaucoup pour
Avec
tous ces
plaisir.
Conseils. On est un peu plus outillés, puis on comprend qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Les gens sont ouverts, là pour nous. Puis, à l'Université de Sherbrooke, on est une université internationale, fait qu'on a l'habitude d'avoir des personnes qui viennent d'autres pays. Il y a vraiment un accompagnement, donc il ne faut pas hésiter. Mais merci beaucoup, Françoise.
Avec grand plaisir.
Puis, tu nous as beaucoup éclairé. Puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci beaucoup.
Tu viens d'écouter un nouvel épisode d'Ici à l'UDS. Retrouve tous les liens et éléments dont on a discuté en description. On se retrouve dans un prochain épisode pour aborder un autre thème lié à l'arrivée à l'université.